blagues sans écran, c'est ludique.
Alors je viens de présenter le jeu Need a Vélire, un jeu de Serge Laget. Et Serge, justement, est avec nous. Bonjour Serge.
Ben bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Alors, on va parler du jeu forcément, mais on va parler aussi de toi. Je crois que tu es enseignant, ça c'est ton métier. C'est difficile de faire les deux, auteur de jeu et être enseignant?
Ben, il faut pas avoir besoin de beaucoup dormir, c'est tout.
D'accord. Moi, c'est ça. Est-ce que justement, dans ton métier, tu formes, hein, je crois, des nouveaux enseignants? Est-ce que tu les formes aussi aux jeux de société?
Alors tout à fait, moi tu sais je suis enseignant mais après tu peux passer un diplôme pour être conseiller pédagogique, donc faire la formation des enseignants du premier degré.
D'accord.
Et donc dans les formations j'ai souvent l'occasion de présenter effectivement des jeux, là tu vois cette année j'ai fait tout sur les jeux mathématiques, donc j'ai présenté plein de jeux, et dont Anabi, dont Mo, dont voilà, dont Cardline, donc voilà des jeux comme ça qui mettent en scène des notions mathématiques, et du coup les enseignants sont extrêmement demandeurs parce que voilà, ils sont intéressés, en même temps ils connaissent pas forcément aujourd'hui en plus la panoplie de jeux qu'il y a, tu vois, c'est difficile, voilà. Donc oui, tout à fait, j'utilise le jeu en formation, mais pas mes jeux, parce que moi les jeux que je fais sont pas forcément à destination pédagogique, quoi.
Oh, c'est quand même mathématique, hein. Il y a quand même de la stratégie.
Il avait dire, c'est vrai, il y a des suites mathématiques, c'est vrai, tu as raison.
Est-ce que ça serait compliqué aujourd'hui d'être auteur à plein temps?
Alors, moi, j'ai jamais fait ce choix-là, mais certains l'ont fait, comme Bruno Catala, comme Antoine Boza, ils l'ont fait avec bonheur, et ils en vivent très bien, et ils sont heureux comme ça, je pense. Moi, je l'ai pas fait parce que j'aime beaucoup mon métier, et que, voilà, pour moi, le jeu, le fait que ce soit une passion, c'est aussi, si tu veux, quelque part, entre guillemets, une sorte de confort, tu vois. Je ne travaille que sur les projets qui m'intéressent, au rythme où ça me convient.
D'accord.
Et ça reste qu'un plaisir, tu vois ce que je veux dire. J'ai jamais de contraintes avec le jeu parce que c'est que du bonheur, quoi. C'est en plus de, voilà. Et que j'aime mon métier. Mais j'aurais pu faire ce choix, je pense, il y a quelques années. Aujourd'hui, ça devient possible de vivre d'être auteur de jeux. Ça l'était moins quand j'ai commencé, mais aujourd'hui, c'est possible. Ouais.
Et avant Need a Vélire, du coup, ça faisait combien de temps que tu n'avais pas sorti de jeu?
Alors, après, moi, tu sais, je suis pas un boulimique du jeu. Donc je prends le temps de faire mes projets. Donc, le dernier en date, c'était le Kickstarter sur Marianne Ostrom, si tu veux. Et Argo aussi, qui est sorti dans une petite maison d'édition belge, mais très sympathique, Fab Games. Donc voilà, mais je fais pas des jeux très très souvent. C'est vrai que souvent il s'écoule un an, deux ans, tu vois, entre deux jeux. Mais ça me va bien. C'est un rythme qui me va bien.
Est-ce que tu penses aussi que la bonne formule pour créer un jeu aujourd'hui et d'en faire son métier, c'est être collectif, un peu comme la team Kaedama?
Alors, j'ai peu de jeux finalement. Il y a Mare Nostrum, Need a Vélire et Cargo Noir. Mmh. Trois jeux sur la quinzaine de jeux que j'ai édités que j'ai fait tout seul. Tous les autres, je les ai co-signés.
D'accord.
Donc, moi, je suis un fan du travail collectif parce que, voilà, ça croise des idées, ça rebondit, ça apporte. En plus, il y a plein de jeunes qui arrivent là aujourd'hui. Théo Rivière, Quentin Lebrun, tout ça. Il y a plein de jeunes qui arrivent qui sont à fond, qui ont plein d'idées. Donc, c'est cool. Et je pense que c'est très, très bien en plus de croiser les différents auteurs, les âges, tout ce brassage me plaît beaucoup. Donc, non, moi, je suis à fond là-dessus, hein. Il n'y a pas de souci, ça me paraît très bien.
Et justement, quand on parle de collectif et des jeunes, notamment comme Théo Rivière ou Corentin Lebras, c'est aussi des jeunes éditeurs qui éditent Need a Vélire, Greux Games.
Ouais.
Comment ça s'est fait cette rencontre et pourquoi tu as choisi Greux Games?
Alors, écoute, moi, je connaissais Florian parce qu'il y a des années, déjà, parce que, bon, ils sont jeunes, mais, non, je rigole, mais on se connaissait avec Florian, on avait joué autour des tables de jeu, donc on s'était revus, voilà, et bon, ils sont dans l'entourage d'Antoine Moza de la Cafetière, tout ça, tu vois, Ludovic Beaublanc, voilà, Corentin, Théo, tout ça, ce pool de joueurs, et voilà, et un jour, je les ai fait tester, Need a Vélire, et Florian et Céline m'ont dit, ça nous plaît trop, on a envie de le faire, tout ça, est-ce que ça tirait? Et voilà, et du coup l'idée m'a plu parce que c'est des gens qui sont passionnés, et après coup, tu vois, je j'ai aucun regret parce que finalement de travailler avec un éditeur entre guillemets qui débute, tu as la garantie que c'est quelqu'un qui va travailler à 200% sur le jeu.
Ouais.
Tu vois, ils sont passionnés, ils sont à fond. En plus, ils se battent dessus parce que c'est leur produit de l'année, tu vois.
Oui, bah oui.
Voilà, donc ils sont à 200%. Et alors que je vois d'autres éditeurs, tu vois, j'entends des fois dire des éditeurs qui ont 15 projets dans l'année, tout ça. Je me dis, mais tu es forcément qu'un numéro, quoi.
Enfin, oui, bah oui.
Ton jeu leur a plu, mais t'es le projet numéro 12, quoi, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc du coup, j'ai vraiment adoré travailler avec eux. En plus, c'est des gens qui sont à la fois jeunes, mais très professionnels, donc ils sont vraiment parfaits. Et en plus, on s'est entendu, tu vois, sur les choix graphiques, sur tout. Enfin, on a été vraiment en raccord sur les règles inclusives, sur la parité dans les personnages. Enfin, on avait des valeurs communes, des choses. Tu vois, ça a été très facile de travailler avec eux et très très agréable.
C'est toi qui leur as conseillé notamment l'illustrateur?
Alors l'illustrateur, ils m'ont demandé si j'avais quelqu'un. Et j'avais travaillé déjà avec Jean-Marie Minguet sur Marianne Osprou, mais c'est quelqu'un que j'avais beaucoup apprécié, là aussi pour son côté humain et puis son coup de crayon. Donc j'ai dit, bah moi, je veux bien ressolliciter Jean-Marie, parce que c'est quelqu'un avec qui je travaille facilement. Donc ils m'ont dit, bah ouais, essaye. Et voilà, il a fait quelques croquis, ça leur a plu et ça s'est fait, quoi.
Et combien de temps au total t'as travaillé sur ce jeu?
Alors c'est long, moi je suis lent, hein, j'aime bien peaufiner, mais c'est vrai que, en fait, si tu veux, Nid d'Avenir, ça part vraiment de la mécanique de jeu de mise, c'est-à-dire le coin building, ce qu'on a appelé le coin building. C'est vraiment, c'est marrant, je travaille pas toujours comme ça, mais là c'est vraiment la mécanique qui est venue en premier.
C'est l'origine du jeu.
Ouais, qui est l'origine du jeu. Et du coup, après, le jeu a eu plusieurs habillages, si tu veux, un peu différents. Donc ça, il a fallu 3 ans, en gros, si tu veux, pour que le jeu arrive de l'idée de départ du coin building à la version finale avec la constitution d'une armée de nains, tout ça. Voilà. Bon, quand j'ai eu les nains, j'ai plus eu de doute, hein. Je me suis dit, là, c'est bon, c'est un thème qui va. Mais voilà, mais il y a eu du travail beaucoup autour de l'habillage et tout ça pour que, justement, ça soit pas trop plaqué, tu vois, que ce soit pas une mécanique, mais qu'elle soit déconnectée de toute thématique. Voilà.
Parce qu'on dit souvent que les auteurs arrivent voir les éditeurs avec leur mécanique et un thème, mais le thème est changé par l'éditeur. Ça n'a pas été le cas, là.
Non, ça n'a pas du tout été le cas et j'en suis ravi. Écoute, ça a été qu'une fois le cas, je crois, si mes souvenirs sont bons dans ma carrière, c'était avec Cargo Noir. Et tu vois, ça n'a pas été avec grand bonheur parce que finalement, moi, j'avais fait le jeu dans l'antiquité, dans le commerce d'antiquité. Et finalement, l'éditeur a souhaité le mettre dans un jeu de truand. Et comme la mécanique est pas du tout, il n'y a pas du tout un Mac, en fait. Ben, finalement, je pense qu'il n'y a pas eu de très bonne adéquation entre la thématique et la mécanique. Donc, je pense que les procédés d'élaboration créatifs qui font des allers-retours entre la mécanique et la thématique, et je pense que ça, l'un se nourrit de l'autre. Donc, je pense que c'est pas si facile que ça de changer de thématique, tu vois.
Et quand on parlait du jeu, le travail de l'éditeur est important. Là, c'est son jeu de l'année, et on voit qu'il a fait les présentoirs, il a pensé aux raidlets et tout ça. C'est vraiment un super jeu, quoi. C'est un des meilleurs du début de l'année pour l'instant. Hein.
Tout à fait, c'est fignolé et puis tu vois, tout est pensé. L'ergonomie du jeu, je pense que c'est énorme parce qu'aujourd'hui les gens lisent peu ou pas beaucoup les règles. Ça se transmet beaucoup de façon orale ou de façon par vidéo internet, tu vois. Et donc le fait que le matériel soit, comment dire, inductif, tu vois, de la règle, il est très intuitif. Si tu regardes bien, il avait une fois quand t'as dit les règles, tu reposes plus de questions.
Ah oui, non.
Voilà. Le matériel est pensé pour que tout soit pratique, tout soit, tombe sous le sens, quoi. Et ça, c'est vraiment leur boulot. Ils ont fait un boulot énorme là-dessus et je leur en sais énormément gré parce que ça compte beaucoup pour la réussite du jeu.
Et le fait d'avoir fait 2 âges dans le jeu,
Pourquoi il y a 2 époques?
Ouais, ben, pourquoi il y a 2 époques?
D'abord, c'est un équilibre statistique, si tu veux. C'est-à-dire que sur les jeux de collection, tu peux avoir le risque qu'une distribution aléatoire soit, entre guillemets, caractéristique un soir et te pourrisse un peu la partie.
Ouais.
Tu vois, on pourrait imaginer que tous les chasseurs sortent en début de partie. Bah, du coup, c'est embêtant parce que ça va truquer la partie, tu vois.
Ouais.
Donc là, le fait de faire 2 époques, ça permet, cet équilibrage statistique, en gros. Tu vois, j'ai réparti chaque catégorie de nains sur les 2 époques.
Mmh.
Donc il y a ça, la première raison. Deuxième raison, c'est aussi ça rythme le jeu. C'est-à-dire qu'à la fin de l'époque 1, tu as quand même le roi qui vient évaluer les troupes.
Oui.
Mmh. Et voilà. Et cet avantage n'est pas négligeable. Donc, si tu veux, il y a un premier mini challenge à sortir de l'époque 1 avec des majorités. Et du coup, il y a un rebondissement, il y a un rythme qui est maintenu dans le jeu. Tu vois.
Est-ce que c'est compliqué? Parce que, sur une partie que j'ai faite, notamment à 2, hein, si on ne sort pas bien de l'époque 1, c'est très dur de revenir.
Ah non, pas forcément, parce que si tu veux, non, on a vu plein de cas gagnés où le joueur n'a pas fait du tout la course aux récompenses,
ouais.
Et malgré tout, il s'est positionné très concret. Par exemple, quelqu'un qui joue beaucoup le coin building en période 1, tu vois, ça peut être
une stratégie.
Tu échanges beaucoup tes pièces en époque 1, donc tu prends pas vraiment des nains performants, est-ce que tu voudrais, tu construis pas vraiment ton armée, par contre, en deuxième armée, tu arrives et là, tu as les meilleures pièces face aux autres, et donc tu prends tout la deuxième période, c'est toi qui prends tout, quoi. Donc non, c'est tout à fait jouable.
Merci pour le petit conseil.
Le jeu, et voilà. un peu de métier, quoi.
Tu reviens de Cannes, c'est un peu le baromètre du jeu. Le jeu ressort super bien, même très bien classé au niveau des ventes actuellement. Est-ce que tu t'attendais à ça avec ce jeu?
Ah, ça a été la folie, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas parce que si tu veux, on n'a pas été dans les nominés, donc on s'est dit est-ce que le jeu va avoir une visibilité, tu vois. Et puis finalement, comme il y avait déjà pas mal de chroniqueurs qui en avaient parlé sur le net, il y a plein de gens qui sont venus avec la curiosité de découvrir le jeu, et du coup, J'ai même été gêné, si tu veux, parce que petit à petit, j'ai envahi l'espace de Greux avec Didier Améliard, tu vois. Voilà, donc j'étais un peu gêné pour les autres jeux, les autres auteurs, tu vois. Phil, notamment, de Dany, qui est un super,
mais oui, ouais,
qui est passé pendant le salon, tu vois. Bon, il m'a dit non, il y a pas de souci. Serge, il m'avait dit qu'il mettait le paquet sur Didier Améliard, mais tu vois, j'étais bon. Donc on a pas arrêté. En fait, j'ai pas touché terre, j'ai rien vu du salon cette année.
Ah ouais, voilà. T'as pas eu le temps de jouer.
Ah ouais, on a fait jouer. Mais bon, en même temps. Pour un auteur, c'est un vrai bonheur, quoi. Enfin, donc, je me plains pas, tu vois, je suis ravi, mais,
non, bah, c'est sûr.
Mais c'est vrai que ça a été un peu fou. Ouais.
D'ailleurs, puis,
on a été sold out aussi le samedi, donc, tu vois, c'est pour dire que les gens étaient contents, et en plus, il y a plein de gens qui achetaient le jeu, donc ouais, c'est chouette, quoi, pour l'éditeur, c'est chouette.
Et c'est assez rare aussi qu'un auteur fasse une vidéo pour présenter son jeu.
Ben, aujourd'hui, tu sais, comme je te disais, hein, les gens aiment de moins en moins lire. Tu regardes. Enfin, mais tout, hein, les appareils électroménagers, ça, les gens lisent pas, en fait, les notices, hein. Les gens, ils faut que ce soit intuitif, quoi. Ils achètent l'appareil, ils essayent de le faire fonctionner, ils vont voir un peu sur Internet, et voilà. Donc, je pense que le fait d'avoir des explications orales en vidéo,
ouais,
c'est pour plein de gens, c'est un vrai canal d'explication beaucoup plus confortable que l'écrit. Après, je dis pas que je l'approuve, hein, je pense que l'écrit a son importance et que voilà. Mais, voilà, c'est aussi aujourd'hui, il faut savoir que c'est un canal de communication important, donc, puis bon, moi, je suis pas très présent non plus, tu vois, dans le milieu du jeu. Donc, bon, voilà, de temps en temps, quand je sors de ma caverne,
oui.
Voilà, c'est aussi un plaisir de communiquer avec les gens, tu vois, parce que, voilà, dans les salons, c'est pareil, je rencontre des gens, c'est cool, enfin, voilà, j'aime bien.
Et dans les jeux sortis l'année dernière, lequel t'a marqué le plus?
Alors, écoute, moi, il y a plein de bons jeux que j'ai bien aimés. Là, dernièrement, j'ai bien aimé Adara, j'ai trouvé ça très sympa, très fluide, voilà. Et en même temps, un format bien sympa. Voilà, j'ai bien aimé. Res Arcana, j'ai bien aimé aussi Res Arcana.
Mm-hmm.
Bon, après, j'ai joué à Gloomhaven. Alors, Gloomhaven, c'est bien. Je peux pas en dire
ça
du mal.
Ça prend de la place, quoi.
Mais voilà, c'est vraiment. Non, mais c'est un jeu. Enfin, voilà, c'est vraiment pour un public averti, je pense.
Ouais.
En termes de plutôt. Pas tellement de règles, hein, parce que le jeu est bien fait. Mais en termes de sociabilité, c'est-à-dire qu'il faut rejouer avec les mêmes gens souvent. C'est la campagne qui est vraiment intéressante. Donc, c'est sur plusieurs soirées. Donc, voilà. Il faut savoir que c'est un jeu un peu particulier, mais c'est un très bon jeu, pas de souci. Et sinon, en famille, j'ai adoré La Vallée des Vikings. Alors franchement, je trouve que c'est une réussite.
Avec les enfants, ouais,
c'est super. Mais tu vois, avec les enfants, tu dis ça, mais ouais, effectivement, mais moi, je m'éclate, quoi, je m'ennuie pas, tu vois.
Mais oui, oui.
Ce que j'aime bien jouer avec enfants, c'est que quand l'adulte s'ennuie pas, quoi, tu vois, il joue pas pour faire plaisir à son fils, quoi, et en même temps, il s'éclate, quoi.
Quand tu changes le tonneau de place, là, boum.
Voilà, c'est drôle, enfin, c'est bien fait, c'est malin, en plus, la mécanique d'avancer, là, sur le ponton qui fait que tu fais scorer les autres en même temps que toi, à quel moment tu fais scorer, c'est vraiment malin, c'est drôle, enfin, c'est rapide, enfin, c'est vraiment très bien fait, j'ai adoré.
Ma dernière question, Serge, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il va falloir attendre beaucoup de temps avant un prochain jeu?
Alors, bon, on a travaillé là sur un Chevalier 2, entre guillemets, avec Bruno Catala.
Ouais.
Donc on a fini en gros à peu près, il en reste encore un peu de boulot, mais on a fini à peu près notre travail à nous. Donc maintenant, il va falloir qu'on l'édite, mais voilà, là-dessus, ça devrait pas trop tarder.
D'accord.
Après, évidemment, bon, pour l'instant, je croise les doigts, mais le succès de Nidavellir, évidemment, me pousse à travailler sur l'extension, donc voilà.
Bah oui,
bon, je veux pas trop en parler, parce que voilà, c'est encore beaucoup trop tôt, mais c'est vrai que si le jeu continue de marcher bien, ça sera d'actualité, c'est sûr. Donc voilà, après, il y a aussi, tu sais, en ce moment, c'est beaucoup la mode de ressortir des jeux.
Ouais.
Donc voilà, et c'est vrai que moi, il y a des jeux, tu vois, d'Astra, par exemple, c'est un jeu sur lequel j'ai beaucoup de regrets, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, enfin, j'estime qu'il n'a pas eu sa chance, quoi. Donc je retravaille dessus, Bruno Fedutti aussi, parce qu'on aimerait bien arriver à le refaire éditer. Je pense que ce jeu a une vraie chance d'avoir une deuxième jeunesse, quoi, entre guillemets, et ça serait chouette si c'était le cas. Donc voilà.
Et puis le monde du jeu prend de l'ampleur aussi, hein, donc c'est le moment, je pense, aussi de faire découvrir, et ça change aussi en loisir.
Le marché s'est élargi, tout à fait, c'est vrai, tu as raison.
Bah, merci beaucoup, Serge, d'avoir été sur Millennium, c'était un plaisir.
Bah, moi aussi, c'était un plaisir, je suis ravi, merci Mathieu, et bonne continuation aux auditeurs bretons et autres.
Merci, à bientôt. Allez, Serge, ouais, au revoir.